d'arriver en 2018 sous Bordeaux, tu arrives là avec ton vélo à la main, j'imagine, et tu as dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ici?
Et ouais, je suis arrivée avec mon vélo, effectivement. Bon, j'arrivais de Paris, donc enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux à Bordeaux.
Plus calme, en tout cas.
Plus calme. Et puis, bah, Bordeaux, c'est une ville où il y a déjà voilà, un tram, une politique vélo assez poussée. Une ville plus petite aussi, hein, par rapport à Paris ou à Lyon. Ouais. Donc, des enjeux de congestion importants, de centre-ville aussi, piétons, depuis plusieurs années. Donc, c'est pas les mêmes échelles.
Ouais.
Mais je trouve que Bordeaux est pas mal en avance quand même.
Il a des choses qui sont bien, qui sont bien avancées. Après, voilà, je pense qu'à fur et à mesure du temps, la métropole de Bordeaux et bon, la Gironde, on se retrouve dans des nouvelles problématiques qu'on croyait résolues, mais voilà, l'impact positif qu'il a eu, les changements dans la mobilité, a généré des nouvelles besoins. Et que maintenant, il faut répondre, il faut trouver. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est toutes les choses qui sont en train de se passer en ce moment. Mais je reviens à 2018, parce que c'est là qu'on s'est connus. Tu as frappé à la porte des vélocités où je travaillais à ce moment-là. Et tu es venu te présenter en disant, voilà, je travaille pour je ne sais pas si c'est une association, ville et territoire cyclable. Et je me présente parce que là, maintenant, je suis sous Bordeaux. Et je t'avoue une chose, là, à sa fois, j'avoue des choses, c'est que je ne connaissais même pas ville et territoire cyclable. Je venais d'arriver aussi, il n'y a pas longtemps, à Vélocité, et je ne connaissais pas cette institution. Et en plus, voilà, quand tu es venu, j'ai cherché un petit peu. Voilà, j'ai vu qu'en plus, elle était née à Bordeaux, en fait.
Oui, tout à fait. C'est née à Bordeaux. Tu veux que je t'explique un peu?
Oui, explique-moi, qu'est-ce que c'est les villes et territoires cyclables?
Bah, c'est une association de collectivités, donc c'est le Club des villes et territoires cyclables. C'est une asso qui est née à Bordeaux, d'élus bordelais et girondins et d'autres collectivités françaises qui, en fait, ont décidé de faire davantage de lobbying pour la place du vélo en ville, mais vraiment du point de vue collectivité territoriale et élus. Et donc, c'est un conseil d'administration composé d'élus, la plupart des grandes métropoles, des communautés d'agglomération, et puis une petite équipe salariée qui travaille sur des études, sur de la mise en réseau de collectivités, des ressources, des enquêtes mobilité aussi auprès des adhérents, ce genre de choses.
Dans ces dernières années, je vois qu'ils sont beaucoup de travail, comme tu disais, des rapports, des propositions et tout ça, que c'est assez intéressant. Ouais.
Bah, en fait, c'est un écosystème, hein, donc le vélo, donc ça fait partie des acteurs de l'écosystème vélo, cette association qui a fait beaucoup de lobbying dans les dernières années avec d'autres, hein, Vélo et Territoire, la FUB, pour que le vélo soit davantage pris en compte dans les politiques publiques, notamment la loi d'orientation des mobilités. Donc ça porte ses fruits aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine depuis une trentaine d'années pour que aujourd'hui le sujet explose vraiment, quoi.
Et toi, Claire, bon, on se connaît depuis 2018, il y a quelques années, mais qu'est-ce que t'a motivé à toi de dire, allez, vas-y, je me lance dans ce monde institutionnel qui travaille sur la mobilité, bon, dans le cas des clubs de villes et territoires cyclables sur le vélo. Mais voilà, qu'est-ce que t'a motivé à rentrer dedans?
Moi, c'est un petit peu à hasard, hein. J'avais pas planifié de travailler dans les mobilités. J'ai fait des études en stratégie territoriale et urbaine et en fait, j'ai trouvé mon premier stage au Club des villes et territoires cyclables. Okay. Je faisais déjà du vélo, je trouvais ça génial. Et puis, bah, j'ai mis les pieds dedans et j'ai trouvé que c'était un monde passionnant avec plein de choses à faire et j'en suis pas partie.
Il est dans le club, tu as passé à l'ADEME.
Ouais.
Je me souviens un jour, toi, que j'étais perdu parce que j'ai reçu un mail de ta part avec signé ADEME et je me suis dit, qu'est-ce que c'est passé? C'est quoi ce Saint-Germain?
Et bien maintenant je travaille à l'ADEME au service transport et mobilité et je m'occupe toujours de vélo parce que le sujet grandit toujours. Ouais. Et en fait, mes missions elles ont un peu évolué parce qu'avant je travaillais plutôt avec des grandes métropoles, des agglomérations et à l'ADEME je travaille avec des plus petites collectivités. Des communautés de communes, des pôles d'équilibre territoriaux, voilà, des territoires plutôt peu denses, pour les accompagner dans le développement du vélo. Et nous, à l'ADEME, on les finance et on les accompagne.
Dis-moi, c'est quoi l'ADEME? C'est quoi ces trucs qui s'appellent l'ADEME? C'est quoi ça que personne connaît?
Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition écologique et c'est une agence publique qui dépend du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Recherche. Voilà, on est une agence qui travaille sur beaucoup de sujets, notamment la mobilité, mais aussi j'ai des collègues qui travaillent sur l'alimentation, sur l'économie circulaire, sur les réseaux de chaleur. Donc voilà, c'est vraiment tous les sujets de la transition écologique. Et le rôle de l'ADEME, c'est d'apporter de l'expertise, mais on est aussi un financeur.
Comment est structuré à niveau national? Est-ce que c'est par région?
Au niveau national, en fait, on a un service transport et mobilité, et ensuite dans chaque direction régionale de l'ADEME, on a une ou deux personnes, selon la taille des régions, qui travaillent sur le sujet transport-mobilité.
Okay.
Et donc au national, on a une équipe d'une vingtaine de personnes, et on a chacun des sujets un peu spécifiques, notamment l'aérien, le ferroviaire, la logistique, et beaucoup d'avant, enfin aujourd'hui encore plus la cyclo-logistique aussi. Donc voilà, tous les champs un peu de la mobilité et des transports sont couverts, et on est plusieurs personnes à travailler sur les mobilités actives et sur le vélo.
C'est très drôle que à chaque fois qu'on rencontre différents acteurs sur les concepts de mobilité active ou mobilité douce, et il y a vraiment un débat. Là,
moi, c'est mobilité active.
Oui, mais c'est drôle parce que pour moi aussi, c'est mobilité active, mais souvent, il y a ces mélanges et quelque part, les mots marketing mobilité douce, ça passe beaucoup mieux que mobilité active.
Ouais.
Alors pourquoi c'est mobilité active pour toi
et pour pas moi c'est mobilité active parce que déjà active c'est un mot qui est positif, donc l'idée c'est vraiment de dire qu'on bouge avec sa force physique, son énergie musculaire, et c'est pas une mobilité passive. Je trouve que dans mobilité douce on a plutôt cette notion de passivité, et après c'est de la sémantique, c'est aussi selon les mots qu'on va utiliser, on va faire passer une certaine forme de discours. Je trouve qu'avec mobilité active, on dit davantage.
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout le côté mobilité douce, ça me plaît quelque part aussi parce qu'il a ce côté de APC.
Ouais.
Mais en même temps, mobilité douce, on dirait qu'on est dans les dimanches, on est en train de se balader sur les quais et on va tranquille et pépère. Non, mais je vais au travail en fait. Je ne vais pas tranquille et pépère. J'y vais en fait. Mais c'est curieux quelque part parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle dans des réunions ou même dans les médias, tout ça, ça parle beaucoup plus de mobilité douce qu'active.
Oui, après nous à l'ADEME, toutes les personnes qui travaillent sur le vélo ont fait du lobbying pour utiliser mobilité active. Et on le rappelle parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui arrivent sur ce sujet-là qui ne le connaissent pas. Et nous, on essaye à chaque fois de faire de la pédagogie et d'expliquer pourquoi on utilise mobilité active, pour que l'utilisation se répande et que voilà, on parle bien d'un sujet pas du dimanche, quoi. C'est vraiment la mobilité du quotidien.
L'ADEME vient de lancer l'appel à projet de A Vélo 2. Ça veut dire qu'A Vélo 1, il a très très bien marché.
Ouais. A Vélo 1 a très bien marché. Je sais pas si tu veux que je t'explique un peu ce que c'est.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, donc un mécanisme qui permet vraiment de lever pas mal de fonds. Donc, on a 13 millions d'euros et on finance 220 collectivités. Le but, c'est vraiment de prendre des collectivités qui ne faisaient pas grand-chose sur le vélo ou peu de choses et de les accompagner pour qu'elles définissent une stratégie vélo. Donc, souvent, ça passe par un schéma directeur cyclable. Et d'expérimenter des services, de faire de l'animation, voilà, vraiment de mettre en place ce que nous on appelle le système vélo à l'ADEME, donc de jouer sur tous les leviers.
Le système vélo, c'est bien ça.
Et à Vélo 1, effectivement, a bien marché, donc le programme n'est pas encore terminé. Là, on a des projets qui sont en cours, qui vont se terminer d'ici la fin de l'année ou tout début 2022. Et on a une super dynamique et beaucoup de collectivités qui nous ont demandé s'il y allait avoir d'autres appels à projets. C'est pour ça qu'A Vélo 2 est déjà en train de se lancer là, et on aura des premiers lauréats au mois de septembre 2021.
Moi j'ai pas regardé à fond A Vélo 1, mais j'avais vu un petit peu des articles et tout ça, j'avais dit oh, mais c'est super en fait, c'est vraiment, j'ai hâte de savoir, je sais pas s'il va y avoir un rapport qu'on puisse lire.
Ben en fait, à Vélo 1, la particularité, c'est qu'on fait partie avec ce programme des financements les plus diversifiés sur le sujet vélo, puisqu'on accompagne les collectivités sur plusieurs axes.
C'est que sur les collectivités?
On finance que des collectivités. Okay. Alors des communes, des EPCI, voilà, y a pas de... c'est assez large, on finance des départements aussi. Et on finance des postes aussi, donc des chargés de mission vélo mobilité active qui travaillent à 50% ou à 100% sur le sujet en collectivité. Et oui, la particularité, c'est vraiment qu'on finance plusieurs axes de la politique cyclable, alors que traditionnellement, les financements publics, ils ciblent des objets très précis, type des infrastructures, des choses vraiment très très précises. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu unique dans le paysage aujourd'hui.
un de tes collègues, Alain Besançon, avec qui j'ai beaucoup travaillé et que, de qui j'ai beaucoup appris aussi. Hein, vraiment, il m'a fait transpirer pas mal de fois pour des choses et ça m'a aidé énormément à réfléchir et avancer. Et c'est lui qui m'a mis sur la table le concept de changement de comportement.
Mmh, bien sûr.
Et vraiment, c'est quelque chose que, avant de commencer à travailler avec lui, oui, tu entends les mots changement de comportement et tu dis, ah, c'est super, ok, je comprends. Mais c'est la fois que je me suis travaillé sur ce sujet-là, j'ai compris que c'est un concept essentiel, en fait. Mmh. Les changements de comportement, c'est simple à dire, hein, mais c'est très compliqué à les mettre en place. Comment on fait pour faire à les gens changer de comportement? Et là, je te lance dans les pères urbaines, parce que c'est là que ton travail à l'ADEME est assez fort quand même.
Ouais. Alors, le changement de comportement, c'est vrai que c'est un peu une spécificité aussi de la culture, je dirais, du travail de l'ADEME. On part pas uniquement de la problématique des infrastructures ou qui peut être davantage portée par le CEREMA, voilà, qui va produire de la connaissance sur comment aménager sa voirie, etc. Dans le périurbain, on part dans pas mal de cas, sur des parts modales qui sont à plus de 90% voiture, hein, si ce n'est plus dans certains cas.
Ah, c'est énorme quand même.
C'est énorme, après c'est la réalité, parce que la configuration des lieux de vie, des lieux de travail et les connexions entre les deux ne sont pas aménagées pour d'autres modes de transport que la voiture individuelle. Et donc du coup, le changement de comportement, enfin peut-être pour revenir un peu sur ce que c'est se dire que on a une pratique de mobilité qui est très personnelle, qui va dépendre de notre mode de vie, de les endroits où on doit se rendre, et on va prendre nos décisions en fait en fonction de ce qui est disponible en fait. Hein. Mmh. Si on vit dans un endroit où on a un bouquet de mobilité, on va pouvoir choisir le mode de transport le plus efficace, et souvent dans les zones périurbaines, le plus efficace c'est la voiture individuelle.
Ouais.
Et donc le changement de comportement, c'est comment est-ce qu'on apporte à des personnes d'autres solutions qui soient assez intéressantes financièrement en termes de temps, en termes de qualité de trajet, etc., pour que ça leur donne envie de changer de mobilité. Après, je peux te parler de ce que nous, on voit aujourd'hui, parce qu'on finance des collectivités dans le programme à vélo qui agissent à l'échelle périurbaine, voire rurale. Et ce qui va être développé déjà, c'est que y compris dans le périurbain, il y a des centralités en fait. Donc il y a des centres-bourgs, il y a des pôles générateurs de transport, comme on les appelle. Donc ça va être des écoles, des services, des lieux où il y a beaucoup de gens qui vont, même si voilà, c'est pas à l'échelle d'une métropole où il y a tout le monde qui vient par exemple dans le centre de Bordeaux. Et du coup, l'idée de base déjà, c'est de cartographier ces endroits-là et comment on peut offrir des solutions. Alors nous, on travaille sur le vélo, mais ces collectivités, elles se positionnent aussi sur d'autres solutions de mobilité. Oui, donc du coup, déjà, l'idée, c'est de faire ces diagnostics-là, d'où on part, où est-ce qu'il y a des déplacements, et comment est-ce qu'on peut offrir des solutions de mobilité active. Et donc là, on en est un peu là dans pas mal de territoires. On finance aujourd'hui des stratégies de mobilité active, des schémas directeurs cyclables. Bon, la réalité, c'est que les infrastructures ne sortiront pas avant 5-10 ans. Et donc, le changement de comportement, il arrivera là, dans les années qui viennent. On ne peut pas demander aux gens, parce qu'on a lancé une démarche de planification, de changer de comportement. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais après, il y a aussi de plus en plus, et aujourd'hui c'est le cas, hein, de gens qui, malgré l'absence d'infrastructures, malgré voilà, des routes un peu dangereuses parfois, se lancent et font du vélo pour faire 5-6 km. Et ça met un peu le pied à l'étrier aussi d'autres et des collectivités qui voient qu'il y a une demande. Il y a des cyclistes et il y a un moment, il va falloir aussi penser à eux dans les aménagements. Quoi.
En fait, pour les périurbains, nous, au sein des BAM, notre vision, c'est une ambition multimodalité, ambition intermodale. Et ce que nous on fait, ce que nous on veut, c'est mettre la personne au centre et étudier les mobilités par rapport aux activités. En fait, pour nous, c'est les activités qui doivent gérer les modes de déplacement. Par exemple, à l'école. Un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps parlait justement de ça, c'était la difficulté de faire que les enfants ils vont à l'école d'une façon différente qu'avec la voiture, avec papa et maman.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des exemples que tu connais, des actions, des activités, des projets qui sont mis en place, des programmes qui sont mis en place par rapport à ça, justement, qui travaillent sur, sur l'activité précise et pas sur le territoire en soi?
Alors, j'ai des exemples. Après, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un peu décentrage de la façon dont on mène les politiques publiques en France, où on n'a pas l'habitude de se cibler sur des publics particuliers, ce qui est par contre ce qui se fait en Angleterre ou aux États-Unis, où on va prendre une communauté et on va dire ok, on bosse sur eux. Nous en France, on est plus généraliste et considère que la mobilité, c'est un peu tout le monde pareil, alors qu'en fait, comme tu le dis, c'est pas du tout le cas. Et sur la mobilité des scolaires, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le département de la Gironde qui a mené une très grosse étude pour faire des diagnostics mobilité autour de tous les collèges du département. Et donc vraiment, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont regardé dans un périmètre de 3 km autour des collèges ce qu'il y avait comme infrastructure, cyclable ou pas cyclable, en gros comment un collégien ou une collégienne pouvait aller au collège à vélo. Ils ont interrogé les parents et les collégiens sur leur mobilité et pour essayer de comprendre pourquoi il y en a qui sont amenés en voiture et pourquoi, par exemple, sur le bassin d'Arcachon, il y a des pourcentages exceptionnels de déplacements à vélo des collégiens. Et là,
c'est vrai ça?
Ah oui, oui, il y a plein de communes dans la Gironde et notamment aussi à Bordeaux, hein, où tu as des garages à vélo immenses et plein de vélos de collégiens. Hein. Et même dans certaines écoles de Bordeaux, moi j'habite Cour de la Somme, il y a plein de vélos devant l'école. Et en fait là le travail vient de se terminer, le diagnostic il est fait et dans les années qui arrivent là il va y avoir un plan vélo collège et l'idée c'est vraiment d'agir là où il y a des points noirs, des choses qui vont pas, là où la part modale elle est faible, et d'embarquer dans l'aventure les collèges et les communes et les intercommunalités concernées. Donc voilà, il y a la Gironde, après il y en a d'autres, hein. Je pense en Alsace il y a une commune qui à remplacer des lignes de bus pour les lycéens et les collégiens par du prêt de vélo. Et donc du coup, c'est l'Unéville à Baccara. Et donc les enfants, enfin c'est pas des enfants, c'est des adolescents à cet âge-là, ils ont un vélo et ils ont une hotline qu'ils peuvent appeler si jamais il y a un problème de mécanique. Et un service voilà, itinérant de maintenance. Et donc, c'est comment faire que ces enfants ils arrêtent de prendre le bus qui coûte extrêmement cher à la collectivité, et qui est parfois sous-rempli et qui n'est pas non plus optimisé parce que tout le monde a un trajet un peu différent, et de les mettre sur le vélo. Après, c'est encore peu développé. Et puis, je fais un petit teasing. À l'ADEME, en 2021, on va faire une étude sur ça.
Ah, c'est bien.
Voilà. Donc, normalement, là, d'ici 2022, je pense.
Par rapport à ce sujet, j'ai un copain qui est un copain espagnol qui est le prof, il est prof aux Pays-Bas. Il avait quelque chose que très intéressant qu'il m'avait dit, c'est en fait la différence pour lui Maxima, c'est que quand il commence son cours le matin, les élèves sont réveillés parce qu'ils sont venus en mobilité active.
Ouais.
Et par contre en Espagne, en France un petit peu pareil, c'est que les enfants, ils sortent des lits, ils le mettent à table à petit déjeuner, ils continuent à dormir dans la voiture jusqu'à arriver à l'école. Ça veut dire que quand ils commencent le cours, ils dorment encore en fait.
Ouais. En fait, c'est un enjeu énorme parce qu'on n'en parle pas toujours, mais il y a la question de la santé en fait, dans les politiques de mobilité active. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on peut quantifier aujourd'hui des retombées positives, des retombées économiques positives sur la pratique du vélo. C'est qu'on a des gens en meilleure santé en fait, puisqu'ils font du vélo, et c'est le cas aussi pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, les chiffres ils sont extrêmement inquiétants parce qu'on a des adolescents qui sont en sous-activité physique en quelque sorte. Et c'est des générations pour lesquelles tout ce qu'on est en train de penser aujourd'hui en politique vélo, si on n'a pas habitué ces enfants et ces adolescents-là à se déplacer en vélo, bah, on loupe un peu le coche de la planification et des services qu'on est en train de mettre en place. Et puis aussi, ça va générer des coûts importants sur le système de santé. Si on a des enfants qui n'ont pas l'habitude de se déplacer de façon active et qui risquent d'être en mauvaise santé.
Et là, on rentre dans... C'est l'opportunité, la porte ouverte à le dernier sujet que je voulais te poser la question. Si je te fais rêver un petit peu, je te dis, voilà, maintenant que tu travailles dans les collectivités, l'ADEME, et on te dit, Claire, tu dois écrire un cahier des charges de comment tu imagines que devrait être un territoire mobile contemporain. Qu'est-ce que tu mettrais dans ce cahier des charges? C'est quoi les choses que tu dis? Waouh, c'est obligatoire que ça arrive pour dire que c'est un territoire mobile et contemporain.
Bah, déjà, je pense que l'enjeu, c'est de rééquilibrer le mix de mobilité aujourd'hui, parce qu'on a des collectivités, des territoires où, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est 90% de par modèle voiture, la place du piéton, elle est inexistante, il n'y a pas d'alternative, le vélo, c'est pour le sport ou les loisirs le dimanche. Donc déjà, je pense que avant même d'écrire un cahier des charges, il faut se fixer des objectifs. Mmh. Et donc, alors après, voilà, selon un peu d'où on part, évidemment, hein, mais de rééquilibrer les modes. Hein, je pense que c'est le cas aujourd'hui dans les grandes collectivités, les grandes métropoles. On a des parts-modèles piétons à 50%, des parts-modèles vélo à 10-12%. Donc déjà, je pense que ça peut être vraiment un enjeu. Comment on redispatche un peu, comment on se donne des objectifs de, je sais pas, à 20% de part modale vélo, de baisser la part modale de la voiture à 50%. Il y a un énorme enjeu qui est l'infrastructure, évidemment, on ne peut pas faire sans. Et l'intermodalité, parce que on parle de la solution vélo, mais la solution vélo, elle est pertinente sur 4, 10 km, et comment on penser les connexions avec d'autres modes de transport, mais ça peut être la voiture individuelle, ça peut être le covoiturage, ça peut être des lignes de transport par car ou par train, parce qu'on n'a pas des gares de partout. Donc je dirais que c'est un peu le cœur, ça serait ça, de penser les déplacements, pas uniquement avec un seul mode de transport, et de faciliter cette intermodalité-là. Si on veut faire vélo plus train, si on veut faire vélo plus voiture, ou marche plus covoiturage, que ça soit, c'est un peu un terme qu'on utilise dans les transports, sans couture, quoi, sans rupture de charge. Je dirais que ça, c'est un gros enjeu. De travailler à l'échelle de bassins de mobilité aussi. On ne peut pas réfléchir juste dans les frontières d'un EPCI, d'une communauté de communes. En fait, en tant qu'usager, en tant que personne qui a besoin de se déplacer, on réfléchit pas avec les frontières administratives. Mmh. On va à tel endroit parce que c'est là qu'on fait ses courses, on va à son travail parce que voilà, il n'y a pas le choix, c'est là qu'est le bureau. Les enfants, ils vont à l'école ailleurs et c'est tout l'enjeu de se décentrer des frontières administratives et proposer des solutions de mobilité vélo ou autre qui correspondent au trajet des personnes, et ce qui implique après, en termes de politique publique, de collaborer à l'échelle de plusieurs EPCI, d'un département, de voir qui peut faire quoi en termes de maîtrise d'ouvrage, de proposition de services de mobilité. Et ça, c'est un gros challenge, mais c'est ce qui est passionnant.
Oui, c'est super passionnant, et je pense qu'on est dans cette direction-là. Et je pense que dans toutes les choses qui sont en train de se passer dans les dernières années, il y a de nouvelles personnes comme toi qui rentrent dans l'institution avec cette idée-là. Et vraiment, c'est très, très, très important qu'on va dans ce chemin-là. C'est super. Et là, je finis avec ça, en te disant merci pour venir et pour nous éclairer par pas mal de choses. On va à BAM, au sein de notre projet, on va te faire un petit cadeau pour te dire... Voilà, BAM, c'est un lieu fédérateur dans lequel on veut, bien sûr, c'est fait exprès, pour que tout le monde fait partie de BAM. Alors voilà, toi, notre tasse BAM,
merci, ouvert pour à tous.
Merci à toi. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Oh, il me semble.